Ça y est, c'est le printemps. Saison de tous les possibles, c'est le bon moment pour faire le ménage dans ta vie perso comme dans ta vie pro. Le moment idéal pour dire ciao à ce crush un peu naze, mais aussi pour écouter cette petite voix intérieure qui te murmure tout bas qu'il est temps de retrouver du sens dans ton travail. As-tu déjà entendu parler de Chance ? Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle pour t'aider à raviver la flamme de ta vie pro. Laisse-moi te raconter comment ça marche. Ça commence par un bilan de compétences. En seulement 3 mois, tu vas pouvoir te reconnecter à tes envies, clarifier tes objectifs et définir une voie professionnelle qui te correspond vraiment grâce à l'aide personnalisée d'un coach professionnel. Ensuite, une fois ton projet défini, tu vas passer à l'action grâce à l'aide de la communauté Chance. Elle sera là pour te soutenir et t'ouvrir son réseau, hyper important, pour que tu puisses donner vie à ton nouveau projet. Perso, je trouve ça absolument génial et en plus, c'est pris 100% en charge par le CPF. Alors, crusher de mon cœur, si ce message allume une petite lueur en toi, je te donne rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et n'oublie pas de dire que tu viens de ma part. Si la vie ne vaut d'être vécue sans amour, je crois aussi qu'elle est bien plus belle avec un job aligné avec nos aspirations et crois-moi, je suis très bien placée pour le savoir. C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
Je reçois un message de sa copine, Samantha, qui me dit « Je suis vraiment désolée. » Là, je comprendrais que tu ne veux plus du tout lui parler. Enfin, je sais que ça fait longtemps que ça ne va pas entre vous, mais là, c'est un peu la goutte de trop, littéralement.
C'est clair. C'est la bière de trop.
La bière de trop.
C'est le litre de trop.
Exactement. Mais en fait, je me dis, je veux couper complètement avec lui, mais je veux aussi couper complètement avec elle, parce que c'est sa meuf, quand même, au fond. Et que même si on est copines, ça va être trop compliqué, quoi. Et de toute façon, je m'en fous, je repars à Washington. J'ai 2 ans en tout, donc je repars.
Mais t'es triste quand même en fait.
Je suis un peu triste, mais j'essaie. En fait, je suis vénère. Je pense que j'essaie de complètement couper, même dans ma tête. What can I say? Today's my day.
Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la Rélovution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_lepodcast. Salut Samia.
Salut Marie-Charlotte.
Samia, tu es la créatrice de La Chamade, le podcast qui décrypte vos crushs et vos relations amoureuses.
Oui.
Tu m'as d'ailleurs invitée dans l'un de tes épisodes. Je remettrai le lien de cet épisode dans le descriptif de celui-là. Pour commencer, Samia, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi, toi, tu as eu envie de créer un podcast sur les relations amoureuses.
Ah, tu me retournes les questions, c'est dur. Non, mais j'ai horreur de cette expression, mais on m'a dit souvent que j'étais une amoureuse de l'amour. J'ai horreur de cette expression.
Moi, je l'assume complètement.
Ok, bon, c'est bien, parce que moi, je l'assume pas encore. Mais en fait, non, c'est pas vraiment que je suis une amoureuse de l'amour, mais c'est plutôt que je tombe très facilement amoureuse. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, avec les années, que je pouvais tomber amoureuse de plusieurs personnes en même temps. C'est pas un problème. Et donc, c'est tellement présent dans ma vie. C'est-à-dire que si je suis amoureuse, c'est présent dans ma vie. Si je suis pas amoureuse, bon, bah, du coup, il y a toujours la potentialité de rencontrer quelqu'un. Et puis, une fois que je suis amoureuse, je peux quand même toujours tomber amoureuse de quelqu'un d'autre en parallèle.
Okay.
Donc, c'est tellement présent dans ma vie que je me suis dit, franchement, je passe trop de temps à parler de mes histoires avec mes copines ou de leurs histoires, autant faire un podcast. Okay. Et donc, j'ai créé ce podcast justement dans l'idée de faire un peu un groupe, un peu le groupe WhatsApp entre copines, où tu dis « Ah, mais il a fait ça, t'en penses quoi ? Mais attends, là, il a mis tel émoji, mais il a mis un cœur, mais il a mis un cœur bleu. Donc, c'est pas un cœur rouge, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Et je me suis dit « C'est trop bien de faire un podcast qui soit un peu un espace de conversation comme une conversation WhatsApp entre copines. »
Parce que ton format, il est hyper original aussi. Ouais. L'inspiration, elle vient d'où ?
Alors, clairement, l'inspiration, elle vient des podcasts américains. Il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle Normal Gossip. Et c'est un podcast où une personne raconte à des invités des gossips de la vraie vie. Donc, vraiment des trucs que les gens lui envoient. Des histoires où elle anonymise les détails, en tout cas certaines choses. C'est pas exactement le même genre d'anonymisation que moi, mais il y a quand même un gros travail derrière et tout. Et c'est, bah, il y a des rebondissements. Et là, c'est, bah, il a fait ci, il a fait ça. Les enjeux sont pas non plus énormes. Et ça reste toujours feel good. Et moi, je voulais garder cet esprit-là. Alors, si je dis que les enjeux ne sont pas énormes, les gens qui m'envoient les histoires vont dire « Ouais, mais quand même, c'est un peu abusé. Moi, mon histoire, elle est hyper importante. » Et bien sûr, mais plus dans le sens où il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'histoire de violence, d'addiction, de choses comme ça. Ça reste vraiment feel good. Et donc, voilà, pour ça, je me suis inspirée du format, mais je l'ai changé. Donc, moi, c'est exclusivement l'amour. Et en plus, à la fin, il y a toujours une question en suspens parce que c'est toujours des histoires en cours que je choisis. Okay. Donc, les gens attendent vraiment une réponse à,
c'est ça.
À l'instant.
C'est-à-dire que l'histoire de la personne que tu anonymises, que tu as reçue et que tu racontes toi à ton invité, elle est en cours.
Exactement.
Et ils attendent
la réponse.
D'avoir ton point de vue et le point de vue de ton invité sur ce qu'ils doivent faire.
C'est ça.
Pour poursuivre l'histoire ou pas.
C'est ça. En fait, il y a à la fois le plaisir d'entendre l'histoire racontée, même si c'est anonymisé, c'est le plaisir d'entendre l'histoire racontée dans un podcast. Mais c'est avant tout que ces personnes-là, je vais dire souvent elles, hein, parce que c'est souvent des femmes, elles attendent vraiment des réponses, des conseils, et pour la marche à suivre, pour savoir un peu ce qu'elles doivent faire ensuite. Souvent, elles ont une idée quand même un peu de ce qu'elles doivent faire. Les gens ont du recul souvent sur leur histoire, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire. Et donc là, c'est un peu le coup de boost. Genre, par exemple, l'argleux. Laisse tomber, le gars ne sera jamais avec toi, quoi. Et donc, c'est un petit peu le coup de pied aux fesses, tu vois, parce que souvent, les invités, comme les invités ne connaissent pas les personnes qui m'ont raconté les histoires, c'est facile pour eux, ils peuvent s'exprimer en
se
disant...
On a du recul,
Voilà. Moi, je suis un peu entre les deux, parce que moi, j'ai eu les personnes au téléphone.
Ouais.
Donc, je suis déjà vachement dans l'empathie et tout, et voilà.
Et j'invite tous les auditeurs de Crush à aller découvrir ton podcast que j'adore, que je trouve absolument succulent. Et ça s'écoute vraiment comme un bonbon. Alors, je ne sais pas si ça te plaît que je dise que c'est comme un bonbon.
Bah, franchement, si. Bah, t'inquiète pas,
bonbon,
vraiment, c'est censé être un bonbon. Hein,
ouais,
vraiment.
C'est un bonbon.
Ça ne révolutionne pas le monde. C'est juste censé être un petit plaisir.
Ça révolutionne le monde de ceux dont tu racontes l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Et de tous tes abonnés, moi, j'en suis sûre. Alors aujourd'hui, Samia, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec un garçon.
Oui.
Avec lequel tu as une relation, si j'ai bien compris, pleine de rebondissements entre le moment où tu le rencontres et le moment où vous vous mettez ensemble. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu d'amour libre.
Oui, tout à fait. C'était ma première relation libre.
Ok, donc on va revenir dessus. Parce que moi, j'ai du mal à naviguer dans les différentes définitions de l'amour libre, du couple libre, du polyamour, du libertinage, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a 100 000 définitions différentes et que surtout, il faut faire attention à ce qu'on dit.
Oui, c'est vrai. Mais alors par contre, moi, je te dis tout de suite, je ne suis pas du tout une ayatollah de tout ça. Et donc, je ne sais pas si même moi, j'utilise les bons mots. Hein. Donc, disclaimer, si quelqu'un écoute et qui est choqué par ce que je dis en disant « mais ce n'est pas du tout ça », voilà.
Bah, on commente. Et on donne son
voilà,
avis.
C'est ça, exactement, exactement.
Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu sais qu'il y a un rituel dans Crush qui est celui de te présenter en 5 hashtags, ce qui permet aux auditeurs de te découvrir un peu plus.
Oui.
Est-ce que tu peux me donner les 5 mots que tu as choisis?
Oui, alors le premier, c'est impulsive, parce que j'ai du mal à me poser et à faire des plans sur le long terme. Je peux me lancer dans des longs projets. Je l'ai fait, par exemple, des séries documentaires ou d'autres trucs, d'ailleurs, même avant. Je peux me lancer dans des longs projets, mais globalement, il faut que je me lance tout de suite. Par exemple, la chamade, c'était, je pense qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je l'ai fait, il s'est passé vraiment peu de temps.
Génial.
Voilà. Ouais. Et donc, j'avais trop envie de le faire. Et je pense que je suis comme ça un peu pour tout. Alors, les gens qui sont passionnés d'astrologie disent parce que je suis bélier, mais je ne sais pas s'il faut y croire. Mais oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que je fonce. Voilà, je fonce. Le deuxième mot que j'ai mis, c'est intense, parce qu'on me l'a souvent dit. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai travaillé dans un poste avant où mon chef m'avait mis sur mon évaluation professionnelle intelligente et fougueuse.
Waouh. Ah, le fougueux, sur le bulletin de notes, il est pas mal.
Pas mal, exactement. Je me suis dit, mon fougueux, c'est un peu trop. Mais le côté un peu intense, c'est-à-dire, moi, je parle beaucoup. Là, dans les podcasts, je me calme, mais normalement, je parle assez vite. Et j'ai 1 milliard d'idées, je balance tout. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien d'ailleurs, hein. C'est juste que je suis comme ça. Et j'ai aussi un avis sur beaucoup de choses, etc. Donc, intense, je pense que ça me définit assez bien. C'est assez large aussi comme terme, donc voilà. J'ai mis optimiste parce que et on va voir après que je ne suis quand même pas toujours confiante sur tout, mais n'empêche que globalement, j'essaie toujours de me dire que ça va bien se passer ensuite. Ça aide beaucoup que je sois dans une position ultra privilégiée dans la vie. Enfin, voilà, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde, mais globalement, je suis assez chanceuse. Si je passe à un moment difficile, je traverse un moment difficile, je me dis ça va s'arranger. De toute façon, statistiquement, on ne peut pas passer que par des moments hyper durs.
Ok.
En général. Je ne veux pas dire que ce n'est jamais le cas. Ensuite, j'ai mis empathique. Alors, empathique, avec quand même un peu de recul là-dessus, parce que tout le monde dit qu'il est empathique et tout ça, et je trouve ça insupportable. Enfin, je pense que c'est propre de l'humain, en fait, d'être empathique, par des sociopathes, globalement.
Ouais, après. Les gamins finissent par devenir empathiques à un moment dans leur développement.
À un moment. Et toi, t'as des enfants, tu dois le savoir.
Plus ou moins tôt.
Normalement, plus ou moins tôt. Mais globalement, je me dis, bon, c'est pas un truc exceptionnel, mais par contre, c'est plus dans le sens, par exemple, je lis pas du tout les faits divers. J'ai énormément de mal. Bon, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, etc. Mais
t'es sensible.
Mais je suis hyper sensible. Ouais, c'est peut-être ça, hyper sensible. Je peux ne pas dormir de la nuit parce que j'ai lu un truc sur un fait divers. Donc toujours sur des trucs vrais, hein, pas sur des fictions, etc. Évidemment. Mais vraiment, ça peut m'empêcher de dormir. Et donc je vais essayer de me fermer parfois à des trucs parce que je me dis là, sinon je vais passer des nuits blanches, je vais me réveiller au milieu de la nuit et tout ça. Et ou alors, pareil, ça peut être des amis qui traversent des choses difficiles. Ça peut partir même, c'est pas forcément très grave, ça peut être même juste une rupture, entre guillemets. Mmh. Enfin, nous, on sait que c'est très grave. On en fait des podcasts.
On mesure.
L'amour, c'est important. Mais n'empêche qu'il y a ce côté où je peux pas... En fait, je me mets à la place de la personne, ça m'empêche de dormir, quoi. Okay. Je suis moi-même choquée, en fait, par ce qui vient d'arriver. Et le dernier, j'ai mis anxieuse. Donc, c'est pour moi, c'est le truc qui va contrebalancer un peu le côté optimiste. Mais ça peut aller ensemble. Globalement, je suis quelqu'un de très, très, très anxieux. Enfin, ça va avec tout ce que je viens de dire, en fait, l'empathie, le côté intense, etc. Mais je suis un petit peu anxieuse, même très, depuis toujours. Ça, je pense que ça vient de ma mère. Je pense qu'elle a une manière de penser qui fait que, bah voilà, tu vois, j'ai été un peu imprégnée. Et ça m'empêche pas d'être optimiste. Mais par contre, je vais plus avoir l'impression que j'ai mal dit les choses, j'ai mal fait les choses. Je reviens d'une soirée, il faut vraiment pas que je pense à cette soirée du tout, parce que sinon je vais me dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? J'ai rigolé trop fort, mais là on m'a trouvé bizarre, c'est sûr. Et donc j'ai un vrai truc de blocage après des soirées ou des choses comme ça, ou des week-ends, ou un moment où je passe du temps avec des gens, en tout cas, il faut vraiment que je bloque, parce que je suis trop anxieuse.
Samia, parlons de ce garçon. Comment on l'appelle? On lui donne un nom de code?
Ouais, on peut l'appeler... On va l'appeler Gabriel.
Ok, Gabriel.
Au pif.
Très bien. Alors, avant de rencontrer Gabriel, on est en quelle année? Tu as quel âge?
Ouais.
Tu es dans quelle situation?
Ouais.
Tu fais quoi? À quoi ressemble ta vie?
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu des histoires d'amour marquantes?
Alors, oui. J'ai déjà été amoureuse plusieurs fois avec des relations. La plus longue avait duré 1 an. Ce qui est beaucoup à cet âge-là, hein, je précise.
T'avais
parce
quel âge,
que j'avais début de la vingtaine, donc je pense que ouais, je devais avoir tout juste 20 ans.
Ok.
Un truc comme ça, où... ouais, 20 ans.
C'était hier.
C'était hier, bien sûr. J'ai pas du tout vieilli depuis, non. Je sortais de prépa. J'allais rentrer à Sciences Po Rennes, donc j'allais changer de ville, passer de Lille à Rennes. Et je suis allée à Rennes chez une fille que je ne connaissais pas pour chercher des apparts.
Ok.
Et cette fille-là, c'est une fille que j'ai rencontrée sur un forum punk, parce que j'étais à l'époque sur un forum punk. J'étais très active dessus. Je suis toujours modératrice de ce forum aujourd'hui, alors que j'y vais plus du tout.
C'est quoi un forum punk?
Alors, un forum punk, c'est un forum où on parle de musique punk, en fait. Et j'y étais depuis donc le lycée, parce que moi, j'ai découvert la scène punk au lycée. Ça a été un coup de foudre absolu. Et du coup, cette fille-là, c'est une fille qui faisait un fanzine à Patride. Et donc, je suis allée chez elle. Elle m'a proposé de m'héberger à Rennes. Je suis allée là-bas. Et là-bas, en fait, il y avait 2 autres personnes que je ne connaissais pas non plus, parce que je ne la connaissais pas elle non plus. Donc, c'était ce fameux Gabriel et sa copine.
Et sa copine. Ils étaient en couple.
Ils étaient en couple.
Ok.
Tous les deux étaient aussi sur ce forum. Donc, je les connaissais par leur pseudo. Et en fait, Gabriel était l'ex de la fille qui m'hébergeait à Rennes. Tout le monde a une très bonne relation.
Ils vivent tous les trois ensemble?
Non, ils ne vivaient pas. C'est juste qu'elle les recevait pour le week-end.
Ok.
Comme moi.
D'accord.
C'est des très bons potes. Et on est allé à... à un concert rockabilly au fin fond de la Bretagne. Enfin, vraiment le truc... bref. Et ce Gabriel, il est un peu spécial. Donc, sur le forum, j'avais repéré un peu ce gars. Il est un peu... Donc, il faisait aussi un fanzine. C'était un des gars les plus actifs du forum. Mais c'était un peu un connard, entre guillemets. Il était assez dur dans ce qu'il disait, assez tranché. Beaucoup d'humour, mais très cassant, en fait. Donc, j'avais déjà cet a priori sur lui. Pas très positif.
À l'écrit.
À l'écrit.
D'accord.
Et donc, je suis...
Tu découvres qu'il est là quand t'arrives ou tu
et
le
je
savais?
Je découvre qu'il est là. Je crois que je le savais pas. Et moi, j'étais un peu impressionnée parce que c'était un gars qui était plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus que moi.
D'accord.
Et donc, j'avais repéré sur le forum et tout. Et parmi les gens, pour moi, qui étaient hyper actifs dans la scène et que j'admirais un petit peu. Et je m'entends très bien avec sa copine. Mais avec lui, ça clash assez vite. Alors, au début, il est très intéressé par ce que je dis. Il me pose plein de questions. C'est un mec qui est branché littérature. Moi aussi. Donc, on parle. Je crois que notre première discussion, c'était sur Balzac. Non, mais vraiment, enfin... Je me sortais prépa, quoi.
C'est bien, Balzac.
Moi, j'adore. Moi, j'adore. Moi, de toute façon, la littérature du 19e, c'est vraiment ma passion. Et donc, on discute de ça. Et en fait, c'est marrant, mais on se prend un peu la tête sur Balzac. On n'est pas d'accord sur une discussion tout à fait normale à avoir un concert rockabilly.
Le débat littéraire, comme ça, s'invite.
C'est ça. Et moi, je suis un peu impressionnée parce que c'est un mec qui a lu beaucoup plus que moi, qui est hyper... Il sait ce qu'il pense. Et moi, je suis encore un peu impressionnable et tout ça. Et puis, à un moment où ça clash, c'est un peu spécial. Je sais même, je crois qu'à l'époque, c'était sur un sujet un peu politique. Et je me dis en rentrant, oh là là, ce mec, c'est un connard.
Ouais, débat d'idées, on est d'accord.
Débat d'idées, pur, d'idées pures.
Okay.
Et je me dis, sa copine est trop sympa. Mais alors lui, c'est un connard. Comme je le présumais en fait en voyant ce qu'il disait sur le forum, à la fois il m'impressionne et en même temps, je vois bien que c'est un gars qui n'est pas très sympa. Il ne met pas les formes quand il parle. Il est très brut, quoi. Et donc, je me rappelle même qu'il y avait une fille qui m'avait dit que je connaissais, qui me disait, mais du coup, tu as rencontré ce gars du forum, parce qu'elle était aussi sur le forum. Elle a dit comment il est en vrai. Je dis, un connard, en fait. Elle m'a dit, ah oui, donc exactement comme sur le forum, pas surprise. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message, un mail, et il me dit, ah, on avait parlé de tel groupe de musique. Est-ce que tu veux que je t'envoie j'ai un vinyle en plus. Est-ce que tu veux que je te l'envoie? Donne-moi ton adresse si tu veux, quoi. Donc, je me dis, ah, en fait, c'est peut-être pas un connard. Je croyais qu'il me détestait et tout, parce qu'il s'était pris la tête. Et je dis, ok. Et il m'envoie le truc, et donc c'est un gros punk et tout, c'est cool. Et à partir de là, on commence à s'échanger pas mal de mails.
Et là, vous parlez de quoi dans vos mails?
On parle de musique, on parle de plein de trucs, on parle aussi de nous. Enfin, en fait, genre, lui il est enseignant-chercheur. Moi, je suis donc étudiante, je viens de rentrer à Sciences Po Rennes.
Enseignant-chercheur en quoi?
En maths.
Ok.
Il est très littéraire, mais en fait, il est enseignant-chercheur en maths.
Ok.
Donc moi, je rentre à Sciences Po, donc on se raconte un peu, moi, un peu mes études, lui, sa life. Puis en fait, même, il parle de sa copine, enfin, je veux dire, avec qui je suis devenue copine aussi. Okay. Donc, il n'y a pas du tout de gêne à ce niveau-là. Mais moi, de plus en plus, je commence à développer des sentiments pour lui. Et ça m'est confirmé un moment où je suis chez eux à Paris, parce que donc, eux habitaient à Paris. Et je suis chez eux à Paris, il y a un regard échangé entre nous, mais je crois rien, juste il a fait une blague. Et il sourit, il me regarde. Et là, je crois que c'est vraiment le moment où je me dis, oh, ça y est, je suis à fond.
Et toi, t'es comment dans cette situation? Parce que t'es copine avec sa meuf aussi.
Ouais, exactement.
Et alors, tu te sens comment?
Justement, pour moi, c'est clair que je ne tenterai jamais rien. Je me sens pas honteuse d'être amoureuse, tu vois, de lui. Parce que, de toute façon, c'est comme ça. Mais par contre, je sais que je tenterai rien. En revanche, lui, il est en couple libre déjà avec sa copine.
Ah, on y arrive. Qu'est-ce que c'est, le couple
le
libre?
Le couple libre, en tout cas, selon moi, c'est que tu ne t'empêches pas d'aller voir ailleurs. Il y en a qui se mettent des règles. Bon, moi, je ne comprends pas trop l'intérêt des règles, mais tu peux aller voir ailleurs et ça ne va pas forcément remettre en question ton couple. Tu peux être amoureux de quelqu'un et coucher avec d'autres gens et tu es libre, en fait. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es n'est pas propriétaire de ton corps.
Ok.
N'est pas propriétaire de toi et ne peut pas t'interdire d'aller voir quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce que tu vas voir quelqu'un d'autre que tu n'aimes pas ton compagnon ou ta compagne, quoi. Donc ça, c'est sur le papier.
Quand tu parlais de règles, quand ils font ça, ils se le disent dans le couple ou
pas? Oui, alors il y en a qui vont dire « on se le dit pas du tout ». Il y en a qui disent « on se le dit ». Eux, ils se le disaient. Mais il y en a qui préfèrent le cacher parce qu'ils ne veulent pas faire de mal. Enfin, mais c'est dit en amont, ce n'est pas caché dans le sens où c'est pas mentir.
C'est un accord qui est annoncé dès le début de la relation.
Oui, voilà. En tout cas, à partir du moment où tu veux ouvrir ton couple. Il faut que ce soit dit parce qu'en fait, on est dans une société où l'exclusivité, c'est un petit peu le truc par défaut. Et donc, si tu ne le dis pas, les gens partent du principe qu'ils sont exclusifs. Donc, il faut le dire. Faut le dire, moi je vois les relations comme ça. Est-ce que t'es ok, en fait, tout simplement aussi.
Ouais, il y a la question. Est-ce que t'es ok?
Voilà, ils étaient là-dedans en théorie. En réalité, moi forcément, j'avais beaucoup, je parlais beaucoup avec cette copine. Faut que je lui donne un nom en fait. Sa copine, je vais l'appeler
Samantha.
Samantha, très bien. Donc Samantha était en couple libre en théorie. Elle était anarchiste. On était tous anarchistes, etc. Mais en pratique, c'était un peu plus compliqué. Parce que des fois, elle me disait « Ah, j'ai l'impression que Gabriel, il kiffe machin. Ça me fait un peu chier. Je lui ai demandé, mais il me dit non. » Et je me disais « C'est bizarre, parce qu'ils sont quand même en couple libre. Donc normalement, c'est pas censé être si compliqué d'en parler. Et elle devrait pas se sentir aussi jalouse, quoi. » Mais je voyais bien que c'était une meuf quand même assez jalouse. Donc pour moi, c'était clair que je ne tentais rien. Et d'ailleurs, il y a eu quelques fois les années suivantes où, parce que du coup, c'est sur vraiment des années, où j'aurais pu me retrouver toute seule avec lui. C'est-à-dire que j'aurais pu arriver plus tôt chez eux alors qu'elle n'était pas encore là.
Ouais.
Genre, elle me disait, tu peux passer plus tôt, machin, avant une soirée ou avant de sortir ou un truc comme ça. Et je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas exprès parce que je ne voulais pas me retrouver dans une position où même j'envisageais qu'il se passe quelque chose entre nous. Et il faut dire aussi, j'étais pas du tout certaine que c'était réciproque, hein, mes sentiments. Hein. J'étais pas certaine que Gabrielle me kiffait.
Mais elle, quand tu dis qu'elle est jalouse, est-ce que c'est possible d'être jalouse dans un couple libre ? Ou est-ce que du coup, ça me fait dire que peut-être qu'il avait imposé un truc, lui, non ? Ou
c'était non, pas ça ? Elle aussi, elle était vraiment comme ça. Elle était très, très comme ça. Mais en fait, c'est le truc de, intellectuellement, elle était absolument pour la liberté.
Ouais. Du mais coup, dans etc. la pratique, elle avait du mal.
Mais dans la pratique, oui. Alors moi, je pense que c'est pas incompatible. On peut être jaloux. Mais il faut qu'on puisse en parler d'ailleurs. Enfin, le but n'est pas de dire non, moi je suis jamais jaloux, tout ça. Ça peut arriver. Il faut pas être de mauvaise foi, entre guillemets, ou juste parce que la personne kiffe quelqu'un d'autre, bon bah t'es mal. Bah, dans ce cas, t'es pas pour le couple libre, ce qui n'est pas grave en fait, mais juste t'es pas pour. Mais si t'as des raisons légitimes, j'en sais rien. Moi par exemple, tu peux être jaloux de quelqu'un en particulier parce que cette personne, tu sens que la vibe est pas géniale. Tu sens que la personne t'aime pas toi. Moi j'aurais jamais envie de coucher avec quelqu'un qui n'aime pas mon mec. Je suis célibataire là, mais si c'est le cas. Qui avec qui s'entend pas avec, juste ça me donnerait pas du tout envie. Il faut qu'il y ait un petit peu de respect. De...
Et si c'est quelqu'un avec, si tu sens que ça peut être quelqu'un avec qui ton mec ou ta meuf fit à mort aussi ou pas. Je suis en couple libre et je sens qu'il y a une personne qui se rapproche et je sens que mon mec potentiellement pourrait être super intéressé par elle. Ça aussi, ça peut être un problème.
Oui, tout à fait. Bah en fait, oui, mais bon, normalement tu devrais, normalement, enfin, tu vois, c'est pas grave. Ça remet pas en question le fait que toi, il t'aime, normalement.
Est-ce que le trio amoureux peut exister dans ce schéma-là ?
Oui, je pense que ça peut arriver, mais c'est plus, je pense, des histoires de chacun de son côté. Mais ça peut tout à fait arriver aussi, des histoires de
trio. Ou est-ce que le trio amoureux, c'est le polyamour ?
Alors, oui, le polyamour, c'est à partir du moment où t'aimes plus d'une personne.
Putain, t'es mon experte
polyamour. Non, mais je suis pas du tout experte. Mais en fait, c'est le moment. En fait, c'est le fait
d'être... J'ai jamais parlé de ça dans Crush, tu vois. Donc,
ah ouais ?
Enfin, pas vraiment.
Ok. Quoi. Bah, moi, je pense que je suis polyamoureuse, mais par contre, je déteste ce terme. Je déteste ce terme parce que pour moi, je vois ça comme un terme de vieux bedonnant qui dit polyamour. En fait, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégue. Je vois le vieux hippie qui se dit ah super, je vais choper de la meuf. Non, mais c'est ridicule, hein. Je sais que c'est pas ça. Mais pour moi, le polyamour, c'est tellement associé à un certain type d'homme en particulier. Mais par contre, je connais plein de gens qui se disent polyamoureux qui ne sont pas comme ça. Enfin,
mais parce que moi, ça, tu vois, je l'associe plutôt au libertinage. Le truc libidineux, sale.
Oui, et encore.
Avant que j'interview J.E.M.
Oui, voilà, parce qu'en fait, tu peux être libertin sans que ce soit. C'est marrant, mais moi, le terme libertin me dégoûte moins bizarrement que le côté polyamour. Mais là, c'est purement personnel.
Ouais, bah, tu vois, c'est le contraire.
Toi, c'est le contraire.
Moi, polyamour, ça m'ouvre plutôt les portes d'un amour partagé à plusieurs.
Bah, c'est ça, en fait.
OK.
Mais c'est juste moi, c'est mon ressenti. Okay. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire polyamour parce que ça convoque ces images-là dans ma tête. Mais en réalité, c'est ça, le polyamour, c'est d'aimer. Enfin, ou en tout cas, être capable d'aimer plus d'une personne. Et que ce soit assumé, que ce soit OK. Et moi, je sais que, par exemple, c'est le cas. Enfin, je peux tomber amoureuse de plusieurs personnes. Mais donc là, eux, c'était pas, je crois, le délire à la base. Il me semble que eux, c'était couple libre, avec possibilité d'aller voir ailleurs. Okay. Mais quoique, enfin, de toute façon, c'est des gens qui, comme moi, pensaient que, de toute façon, on ne peut pas vraiment... Enfin, ils n'avaient pas spécialement envie de coucher avec des gens dont ils avaient pas, pour qu'ils n'avaient pas des sentiments. Donc, tout est un peu lié aussi. Hein. Mais c'est pas juste coucher avec quelqu'un. Okay. Donc, il y a quand même un peu de polyamour, peut-être, dans cette histoire. Elle avait eu des histoires, par exemple. Elle avait eu une histoire avec une fille. Elle avait eu, à la fin de la relation, beaucoup d'histoires avec d'autres gars. Mais
oui, parce qu'on sort quand même de la sexualité binaire aussi.
Pas obligé. Pas forcément. Tu peux être complètement hétéro aussi.
Okay.
Mais là, en l'occurrence, elle était bi.
Okay.
Mais lui, par exemple, il était 100% hétéro.
Tout est possible.
Mais vraiment, toutes les combinaisons, tout est. Il faut de tout pour faire un monde,
absolument.
Comme on dit.
Comment va se passer la suite ? Donc, toi, tu es amie avec les deux à ce moment-là.
Moi, je suis amie avec les deux, mais même surtout plus avec elle encore qu'avec lui.
Okay.
Même si on s'écrit beaucoup. Et c'est sur vraiment des années et des années. En fait, je pars à Boston un an. À Sciences Po, on est obligé de partir une année à l'étranger. Et ils viennent me voir
tous
à Boston, tous les deux, passer une semaine avec moi, avec mes colocs et tout, et c'est hyper cool. Moi, là, ça me remet à fond dans cette histoire, parce que bon, moi, j'avais un peu, forcément, avec la distance, un peu zappé.
Mais toi, t'étais amoureuse de lui pendant toutes ces années, en secret, on est d'accord ?
Exactement.
Et t'avais d'autres relations ?
Et j'avais d'autres relations, ça ne m'empêchait pas.
Ok, très bien.
Mais j'étais vraiment amoureuse de lui. Et je me rappelle très bien, quand ils sont repartis à la fin de cette semaine, à Paris, je me disais, alors que j'étais trop bien à Boston, je me disais, la chance qu'elle a, j'aimerais trop reprendre l'avion avec lui et rentrer avec lui. D'ailleurs, j'en parle avec mes colocs quand ils s'en vont. Je dis, en fait, je vous ai pas dit, mais je suis amoureuse de lui et tout. Et c'était là, mais non, mais c'est quoi cette histoire et tout. Bref, c'est trop marrant. Ensuite, l'année suivante, après Boston, je rentre et c'est le moment où on se brouille un peu avec Gabriel.
Qu'est-ce qui va se passer ?
En fait, c'est juste que, donc comme j'ai dit, il était assez brut de décoffrage, il mettait pas trop les formes, il avait des idées assez tranchées, et là, ça commençait vraiment à me gonfler. parce que je le trouvais de moins en moins sympa avec moi. Je trouvais qu'il était de plus en plus dur, de plus en plus jugeant. Moi, ça n'aidait pas que j'étais un peu en complexe d'infériorité parce que lui était enseignant-chercheur, il avait 10 ans de plus que moi. Moi, j'étais encore étudiante et tout, donc voilà. Et il y a un moment où j'ai, même je crois, j'avais dit « je veux plus le voir spécialement, il me saoule ». Et je voyais que sa copine.
Mais c'est consommer la brouille ou c'est
c'était, je crois, c'est toi qui décides. C'était pratiquement... Non, c'était pratiquement...
Il n'y a pas d'engueulade.
Il n'y a pas d'engueulade, mais je crois qu'il y a même un moment où on s'est retrouvés dans un café pour essayer de mettre à plat des choses, même s'il n'y a pas une engueulade à proprement parler, mais en tout cas pour voir ce qu'on pouvait faire pour s'entendre. Et en fait, il était fermé à tout ce que je disais. Il était extrêmement renfermé, quoi. Donc, je n'arrivais pas à avoir une discussion avec lui. C'est trop bizarre, hein. Et moi, en fait, au fond, je pense que j'avais encore des sentiments pour lui, mais je commençais plus à en avoir marre de lui.
Okay.
Je pars à Washington, parce que là, je pars pour un master, donc pour 2 ans. Je pars, je rentre pour le premier Noël. Et là, on passe le nouvel an tous ensemble. Donc là, à ce moment-là, moi, je parle quasiment plus à ce gars. Il n'était pas d'accord avec un truc que j'avais posté parce qu'il me suivait un peu sur les réseaux. Et j'avais publié un article dans un journal de mon université. Et il n'était pas d'accord avec ce que j'avais dit, trouvait que c'était trop militariste et tout. J'étais anarchiste, mais c'était pas trop le DEL, on va dire, de mon université. Quand t'écrivais sur un truc lié à l'armée, etc., je pouvais pas dire ça. Et bref, donc j'avais écrit des trucs qui, lui, et moi avec le recul, qui me conviennent plus du tout. Mais bref, il m'a allumée. C'était en plein nouvel an. Il m'a allumée en disant « je comprends pas que t'écris ça ». Et encore une fois, intellectuellement, je suis d'accord. Mais la manière de faire était horrible. Okay. Il commence à vraiment mal me parler.
Devant tout le monde ?
Devant tout le monde.
Okay.
Et il y a un moment, j'en ai trop marre. Donc, on est à ce moment-là devant un bar. On va enchaîner la soirée ailleurs. On était à la base chez un pote. Je dis, bon, vas-y, j'en ai marre. Je pars. Je dis au revoir aux gens. Et là, je sens un liquide couler sur ma tête. Il m'avait renversé sa bière sur la tête.
Mais non. Mais pourquoi ?
Parce qu'il était ultra frustré, vénère. En fait, que je pense que je me casse. Et que je précise, d'ailleurs. Je précise, c'est important peut-être. Ce mec est sur le spectre autistique. Ça n'explique, enfin, ça justifie rien. Mais on peut se dire, putain, mais un mec de son âge, allô, quoi. Et en fait, ça ne justifie pas tout. Mais en tout cas, il a clairement une autre manière de fonctionner que la majorité des gens, on va dire.
Il a 35, genre, toi, t'as autour de 25.
À ce moment-là, j'ai 35, genre, peut-être, quoi. Exactement. Okay. Exactement.
À 25 ans, il te verse sa bière sur la tête. C'est une certaine réaction. Ok, j'aimerais bien comprendre pourquoi elle a fait ça. Vas-y.
Non, mais c'est horrible. Et moi, je me retourne. Donc, j'ai la bière vraiment qui dégouline. C'est horrible.
Ouais.
Et j'allais partir de toute façon. Mais enfin, vraiment, c'est horrible. Et je lui balance. J'avais une bière à la main. Je lui balance ma bouteille sur les genoux. Et je me casse. Et là, je rentre chez moi. Et en fait, je reçois un message de sa copine, Samantha, qui me dit « Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Vraiment, c'est... Là, je comprendrais que tu n'avais plus du tout lui parler. » Enfin. Je sais que ça fait longtemps que ça ne va pas entre vous, mais là, c'est un peu la goutte de trop, littéralement.
C'est clair. C'est la bière de trop.
La bière de trop.
C'est le litre de trop.
Exactement. Et du coup, je coupe là. Mais en fait, je me dis, je veux couper complètement avec lui, mais je veux aussi couper complètement avec elle, parce que c'est sa meuf, quand même, au fond. Et que même si on est copines, ça va être trop compliqué, quoi. Et de toute façon, je m'en fous, je repars à Washington. J'avais 2 ans en tout, donc je repars.
Mais t'es triste quand même, en fait.
Je suis un peu triste, mais j'essaie. En fait, je suis vénère. Je pense que j'essaie de complètement couper, même dans ma tête. De toute façon, je suis là. Je repars à Washington, et donc c'est débile, mais je la vire de Facebook. Mais pour moi, c'était symbolique, sachant qu'à l'époque, elle avait pas de portable. Anarchie, tout ça. Elle avait pas de portable. Mais elle avait quand même Facebook, tu vas me dire. Mais en tout cas, elle avait pas de téléphone portable.
Je m'en connais d'autres.
Okay. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai coupé de ça, et c'était fini. Et en fait, moi, de toute façon, je suis repartie à Washington. J'étais dans ma life. Moi, quand j'étais là-bas, aux États-Unis, j'arrivais pas du tout à garder un pied en France. De toute façon, à trop, je suis pas quelqu'un qui garde vraiment contact. J'ai un peu du mal et tout ça à penser à prendre des nouvelles. Donc en fait, ça a aidé. Et là, j'ai juste mis, bon bah ça c'est à Paris, c'est loin, et je suis dans ma life. J'étais amoureuse en plus à ce moment-là d'un autre gars, donc ça m'occupait pas mal et tout ça. Et ensuite, j'ai passé cette année comme ça. Vers la fin de l'année, je sais plus comment, je reprends contact avec Samantha. Parce que je me dis quand même, bon là, il s'est passé 1 an, je suis pas quelqu'un de très rancunier, et en plus, c'est pas elle qui m'avait fait quelque chose. Mmh. Et donc, bien sûr, je voulais pas reprendre contact avec lui, mais je voulais reprendre contact avec Samantha. Et on reprend contact, je vais rentrer pour un deuxième Noël, nouvel an, et on se voit à ce moment-là, et c'est très cool, et elle m'annonce qu'elle n'est plus avec...
Ah, Gabriel.
Gabriel. Après 11 ans de relation.
Ah ouais, c'est énorme.
Ouais.
Ah oui, grosse rupture.
Grosse rupture.
Et elle te dit pourquoi ?
Et elle me dit, parce qu'on n'était plus amoureux, en fait, on D'accord. s'est rendu compte, on a un peu traîné le truc à la fin, et voilà, mais ils sont meilleurs potes. À ce jour, ils sont toujours meilleurs potes.
Ok.
Aucun problème. Donc voilà.
Est-ce que ça réveille quelque chose en toi ?
Et justement, moi, sur le coup, non, mais quand je repars à Washington, je me dis, ah ouais, quand même, c'est vrai que... Mais moi, mon grand problème dans la vie, c'est que je suis pas rancunière. Enfin, sauf maintenant, mais là, ça y est, c'est... Bref, toujours plié à
T'as passé
à
un
ces
stade.
Personnes-là. J'ai passé un stade. En tout cas, j'ai remarqué que je suis plus... Enfin, je ne vais pas revenir vers des gens qui m'ont aujourd'hui vraiment fait trop de mal. Mais à cette époque-là, je n'étais pas du tout rancunière. Je n'étais même pas contre le fait de reprendre contact avec lui. Alors que ça faisait des années que ça n'allait pas avant, cette histoire de bière sur la tête. Hein. Mm. Et quand je repars à Washington, je me dis, mais quand même, c'est vrai que ce gars, j'étais amoureuse de lui. Quoi. Et j'avais personne à ce moment-là dans ma life à Washington. Et je me dis, tiens, je vais faire un peu l'instant confession. On se parle avec cette fille sur Facebook, avec Samantha.
Et tu lui dis...
je lui balance.
Oh, tu sais que j'ai toujours été amoureuse de ton mec.
En fait, je lui dis, en fait, il faut que je te dise, j'étais amoureuse de lui. Il ne s'est absolument rien passé, je n'ai absolument rien tenté. Mais voilà, juste pour que tu le saches. Et là, elle me dit, mais Samia, c'est fou. Parce qu'en fait, lui aussi, il avait des sentiments pour toi. Et j'étais méga jalouse de toi. Et on avait des embrouilles à non plus finir.
À cause de ça ?
À cause de ça.
Waouh !
Et je me dis, mais quoi ? Enfin, genre, j'ai tombé des nues. Et en fait, vu qu'elle s'est complètement terminée, là, ses histoires et tout, et s'est complètement terminée avec lui, même si son meilleur pote, justement, elle se dit, ben. Je veux lui dire. Et en fait, elle ne me le dit pas, mais elle en parle à Gabrielle. Elle dit, voilà ce que Samia m'a dit. Et moi, je le sais
elle
très vite.
Elle fait l'intermédiaire.
Elle fait l'intermédiaire. Et moi, je le sais très vite, puisque genre une semaine plus tard, je me rappelle, je suis en cours à la fac et je reçois un mail de lui, sans objet, typique Gabrielle, sans objet, avec juste écrit une phrase. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, genre au nouvel an, j'ai été un gros connard, un truc comme ça. Mais une phrase. Donc, ni bonjour, ni au revoir, ni merde. Rien. Et je me dis, bon, je sais que c'est son ex. Et là, je me dis, ok, allez, on a parlé, donc il est quand même un peu intéressé, enfin, c'est sûr. On se parle, on se rajoute sur Facebook, etc. On se parle tout le temps.
Ok.
Tout le temps.
Tu lui en veux plus du tout, toi ?
Bah, en fait, on parle, il s'excuse, et moi, je suis plus du tout vénère. C'est peut-être un problème, d'ailleurs, hein, vraiment, que je sois plus vénère. Parce que je me dis des fois, pourquoi est-ce que je garde pas... une rancune quand même un peu au fond, enfin quelque chose qui fait que tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Pourquoi je suis autant capable d'oublier, tu vois. Et au final, non seulement ça rabiboche, mais en fait on va vite sur des sexos, des machins, etc. Et puis ben il me dit, est-ce que ça te dit que je viens te voir à Washington ? Il arrive le jour de mon anniversaire.
Ah oui, là il rigole pas.
Ouais. Et en fait il vient passer une semaine et c'est une semaine incroyable. C'est incroyable et en même temps il me dit, ben, tu sais moi je sors de 11 ans de relation, j'ai pas envie de me remettre en couple, mm-hmm. C'est juste comme ça. Moi je suis complètement à fond. Ça y est, mon amour est reparti, mais fois mille pour lui. Mais
est-ce que c'est la première fois que tu ressens un truc aussi fort pour quelqu'un ou pas ?
Peut-être pas, parce que quand même, j'ai ressenti beaucoup de trucs, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est okay. Très, très fort. Il repart au bout d'une semaine. Moi, j'ai encore quelques mois à Washington. Et là, je suis un peu en mode, bon, de toute façon, j'avais envie de rentrer en France. J'avais pas envie de rester à Washington après mes études, parce que les Américains me saoulent pour plein de raisons. De toute façon, voilà. Et maintenant, je dis ça, et maintenant, j'ai plus envie d'y retourner. Bref. Mais j'ai aussi forcément envie de rentrer pour lui.
Bah oui.
Donc les études se terminent.
Vous n'êtes pas du tout fait de promesses pendant
aucune,
cette semaine-là.
Aucune. Non,
c'est mais juste l'offre très clair. Pendant une semaine.
Ouais. Mais lui, il est assez clair. Hein. Il veut vraiment papillonner. Il veut profiter okay. de sa life, etc.
Il ne propose pas un couple libre ?
Il ne propose même pas un couple libre.
Ok.
Il me propose juste qu'on soit amants et que voilà et qu'on verra bien.
Sex
tu vois.
Friend.
Sex friends.
Ok.
Et moi, c'est le genre de truc où je me dis, ok, mais j'espère qu'il changera d'avis. Et normalement, il ne faut pas faire ça.
Ah, il y a un petit déséquilibre, quoi.
Exactement. Je rentre.
Après plusieurs mois.
Après encore quelques mois, il était venu, c'était en mars en fait. Donc je rentre fin mai.
Okay,
donc
ça va,
ça c'est vite, okay. Début juin ou un truc comme ça, juste après ma graduation. Je suis à Paris, mais un peu à droite à gauche, parce que mes parents habitent en région parisienne. Moi, je squatte aussi chez des potes à Paris même, je squatte chez lui beaucoup, je le vois pas mal, mais je sais qu'il voit d'autres gens, notamment une autre fille. Bref, plusieurs mois se passent comme ça, où c'est un petit peu compliqué. Parce que moi, je suis amoureuse de lui ouais. Et j'aimerais quand même que... Je suis intéressée par l'histoire du couple libre, mais il faut qu'il y ait couple dans l'histoire. Et pour l'instant, il n'y a pas de couple du tout.
Oui. Et il n'a plus du tout de comportement véhément avec toi ?
Pas du tout. Au contraire, il est vraiment... tout est très cool. Tout est très, très cool. Ça reste un mec un peu spécial, dans le sens où, voilà, socialement parlant, il n'est pas forcément comme tout le monde. Mais avec moi, ça se passe très bien. Même si ça me saoule à chaque fois qu'ils me disent, genre, attention, je ne cherche pas un couple. Mais cela dit, maintenant, je comprends parce que je suis complètement dans cette position aujourd'hui. Je suis toujours à dire, moi, attention, avoir des gens et à dire, attention, je ne veux pas être en couple. Parce que là, okay. Je suis célibataire depuis quelques mois. Et même si moi, ma vision du couple, c'est un couple libre, là, je sais que j'ai juste envie d'être libre tout court. T'enlèves la partie couple. En fait, j'ai envie d'être célibataire, tout simplement. Et donc, je suis dans cette position où je dis au mec, attention, attention. Ouais. Et donc, je me rends compte, en fait, que. En fait, je me rends compte que bon, bah, on peut dire ça sans être méchant, quoi. Et moi, je le prenais mal à l'époque. Et puis, au final, bah, on passe de plus en plus de temps ensemble. Et on finit par se mettre ensemble, par s'installer ensemble au bout de quelques mois. Et oui.
Ah, vous emménagez ensemble.
Ouais. Et en fait, c'est un peu le truc de, bah, voilà, avec moi, il peut changer. Parce qu'il voulait pas de couple. Mais en fait, il est tellement amoureux de moi que ça se passe bien, tu vois.
Ça, c'est ce que tu te dis.
Ça, c'est ce que je me dis. Et en fait, il me dit vraiment qu'il est amoureux de moi, il n'y a pas de problème, quoi. Et on vit vraiment une relation normale, entre guillemets, même si elle est libre. Mais ça pose pas spécialement de problème. Enfin, il y a des fois, il y a des histoires de jalousie, mais globalement, c'est pas du tout un truc qui nous occupe au quotidien, quoi.
Toi, t'as d'autres histoires aussi ?
Moi, j'ai d'autres petites histoires. C'est pas une question. J'en ai pas tant. J'en ai un petit peu. Mais globalement, je suis très, très amoureuse de lui.
Bah oui.
Le gros problème de tout ça, c'est que comme je savais que lui voulait pas être en couple à la base, j'ai un peu une insécurité permanente.
Bah oui.
Où je me dis, mince, tout peut se terminer à tout moment. Ça dure quand même 3 ans à peu près, le moment où on vit ensemble. On vit ensemble pendant trois ans.
Est-ce que ce que tu dis, ce déséquilibre entre vous, le fait que tu étais hyper amoureuse de lui et que du coup, tu n'allais pas voir ailleurs, parce que quand on est amoureuse de quelqu'un, en fait,
alors, pas
potentiellement, tu n'as pas forcément envie d'aller vers d'autres.
Pas forcément. Moi, ça ne m'empêche pas, mais c'est plus là le côté insécurité, vraiment, qui faisait que je pense que je n'avais pas trop envie d'aller chercher ailleurs. Mais dans ma relation suivante, j'étais amoureuse de mon copain et ça ne m'empêchait pas de quand même avoir des histoires avec d'autres mecs, voire même de tomber amoureuse d'autres mecs. Enfin, je dis pluriel, il n'y en a pas eu 100 000, hein, d'ailleurs, heureusement. Mais
on s'imagine à Samia.
C'est ça, exactement. Non, mais vraiment. En plus, franchement, il faut savoir que moi, mon mode par défaut, c'est d'être au lit à 22h avec une tisane. Hein. Donc, je ne suis pas du tout grosse fêtarde. Ouais, voilà. Moi, ça ne m'empêche pas de rencontrer des gens. Donc, je me dis, c'est super. J'ai quand même toujours plein d'histoires sans avoir à beaucoup donner de ma personne. Et voilà. Et ensuite.
Donc, pendant 3 ans, vous avez cette relation couple libre. Donc, tu sais que lui, il voit d'autres meufs.
Voilà.
Toi, t'en vois, mais pas vraiment d'autres mecs.
Voilà. Bon, c'est et il voit même pas tant que ça d'autres mecs, en vrai. Hein. Okay. Mais c'est plus qu'il aimerait... En fait, c'est aussi quelqu'un, comme il a été 11 ans en relation, il se dit, mince, je vieillis, j'ai pas eu tant d'histoires, j'ai peur que de passer un peu à côté de ma life.
Ouais, bon, un classique.
Un gros classique.
Gros classique. Et est-ce que vous avez des projets ensemble ou
pas ? Mais oui, complètement. Enfin, on part en vacances ensemble. Enfin, des projets.
Ouais.
Ni l'un ni l'autre ne veut se marier ni avoir des enfants, ce qui est d'ailleurs mon cas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est, on n'a pas des projets dans ce sens-là, mais moi je vais en vacances chez ses parents, il connaît mes parents, enfin vraiment on est un couple quoi. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Et moi des fois je me dis quand même c'est fou, enfin qui aurait cru un jour qu'il y aurait nos deux noms de famille sur la boîte aux lettres en fait, enfin et ça me paraît fou, enfin vraiment. Et lui aussi d'ailleurs il me dit mais quand même c'est dingue parce que ben, moi, je t'aimais un peu en secret pendant tout ce temps. Et d'ailleurs, il me dit, quand j'étais pas sympa avec toi, c'est parce que je pense que c'était ma façon de... On peut discuter le truc. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est relou en même temps, les gens qui pensent comme ça. Mais en même temps, c'est vrai. C'est parce qu'il était un peu frustré et que du coup, il avait du mal à gérer.
Je comprends.
Voilà. Ouais. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, quand je te parlais mal et tout, c'est parce que j'étais amoureux de toi. Enfin, c'est trop bizarre. Et donc, la relation se passe quand même bien jusqu'au moment où, d'un coup, on se sépare. Et je dis d'un coup parce qu'il revient d'un voyage, il était donc enseignant-chercheur, donc il voyageait beaucoup, il revient d'un voyage au Brésil. Et là, moi, je sentais qu'il avait rencontré quelqu'un qui était une Française, mais qui était installée là-bas. Et je savais qu'ils se voyaient, qu'ils allaient se voir là-bas. Enfin, je veux dire, c'était une fille qui nous avait été présentée par des potes communs et tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un truc, il y avait plus que ça. Et là, j'étais ultra jalouse. J'étais ultra, ultra, ultra jalouse. Et je pense que si j'étais aussi jalouse, c'est parce que je sentais que... notre relation était plus au top. Et que du coup, c'était un truc un peu plus menaçant, entre guillemets. Parce que je lui ai un peu pris la tête quand il était au Brésil. Et quand il est rentré, on a eu The Toll qui m'a dit « Je pense qu'on devrait faire une pause ». Et c'était horrible. Moi, c'était le ciel qui me tombait sur la tête, même si je l'avais toujours un peu attendu parce que j'étais toujours en insécurité. Je me dis toujours « Ça peut arriver ». Le fait que ça arrive, c'était horrible. Donc, c'était l'été 2018. Et là, j'étais vraiment trop, trop mal. On a fait cette pause et au bout de 2 semaines, donc moi littéralement j'ai emprunté l'appartement d'une copine qui était pas là. Enfin, voilà. Tu vois, j'ai bougé.
Et là t'es vraiment down, down, down.
Down.
Ouais.
Et je précise que c'est moi qui suis partie parce que je voulais moi aussi prendre les devants là-dessus. Ouais. Hein. Ouais, j'étais mais horriblement mal.
Ouais,
et au bout de 2 semaines, je vois bien que de toute façon, la pause peut durer indéfiniment. Lui, ça le gêne pas, de toute façon. Ça l'empêche pas de vivre sa life. Et puis, ça lui évite de prendre une décision. Et donc, au bout de 2 semaines, je me dis, bah, en fait, moi, je vais dire que c'est fini. Parce que soit, il veut pas que ce soit fini. Et du coup, ça va le faire réagir. Soit, il dit d'accord. Et du coup, bah, ça devait arriver de toute façon. Donc, voilà. Et finalement, il me dit d'accord. La rupture est horrible, vraiment très, très dure. Et je pense que j'ai vraiment mis énormément de temps à l'oublier, entre guillemets. Et à me dire, ça y est, je suis vraiment passée à autre chose.
Et t'y arrives ?
J'y suis arrivée. Je pense que je m'en suis rendu compte, en tout cas, en le revoyant, parce qu'après lui, il est parti à Montréal, tout ça. Bref, je l'ai revu, je pense, vraiment 3 ans plus tard. 2 ans plus tard. Et là, je me rends compte que ça y est, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Je suis plus amoureuse de lui.
En le revoyant ?
En le revoyant. Mais fun fact, suite à ça, en fait, on s'est vraiment, pour le coup, brouillé complètement.
Ah.
Peu de temps après. Parce qu'en fait, on a vraiment reconnecté, en mode on pouvait redevenir potes. Et moi, j'étais, ça y est, c'est super, je suis plus du tout amoureuse de lui. C'est terminé, j'étais dans ma relation avec le mec suivant, Arnaud, donc, qui est dans mon podcast, donc je peux dire son nom. On avait un épisode ensemble. Mais sauf qu'en fait, il parle super mal d'Arnaud. Et il y a un truc, une histoire de cagnotte qui est organisée pour moi pour mon anniversaire. Et donc, c'est Arnaud qui l'organise. Et lui, il balance des trucs sur des gens qu'on connaît, qu'on a en commun. Et il dit, ah non, mais Arnaud, en fait, son message, il est comme ci, comme... Bref, il arrête pas de me critiquer. Et moi, ça, c'est hors de question. Arnaud, c'est la personne... Enfin, c'est mon meilleur pote aujourd'hui. On est séparés, c'est vraiment mon meilleur pote. Et même, bah, là, à l'époque, c'était mon copain. Et c'est hors de question que tu parles mal de lui comme ça. Et donc, quand j'apprends ça, moi, je fais, c'est bon. Et en fait, je l'ai envoyé chier complètement. Et c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est fini pour le coup. Là, pour le coup, c'est pour ça que maintenant, je me dis, je suis peut-être plus rancunière. Mais j'ai l'impression que vraiment, il a tellement tiré sur la corde.
Ouais.
Et je pense que c'est marrant, mais je réagis plus parce qu'il a critiqué mon mec de l'époque que moi.
Que toi.
Je pense que je suis plus rancunière par rapport aux gens que j'aime. Et donc là, ça y est, c'est complètement terminé.
Est-ce que tu crois que ça a à voir avec... l'image que tu as de toi-même ou la valorisation
que
tu as?
Oui, je pense que je manque un peu de confiance en moi quand même. Mais là aussi, je pense que la distance avec lui, vraiment, m'a permis de voir que c'était trop le centre de ma vie pendant des années, en fait. C'était trop quelqu'un que j'admirais. Et maintenant que j'ai aussi vieilli, enfin, tu vois, j'ai 35 ans, là, je vois aussi ma valeur. Je vois le fait qu'il n'est pas aussi génial que ce que je voyais à l'époque. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui sont pas cool chez lui. Et en fait, je me dis pas pourquoi est-ce que je voudrais garder quelqu'un comme ça dans ma vie, en fait, qui est pas bienveillant.
Est-ce que tu nommes ça un peu genre toxique ou pas du tout ?
Je dirais pas toxique, non. Honnêtement, j'ai jamais été dans une relation toxique. Ça, c'est cool. Non, je dirais pas toxique. Je dirais juste que c'est quelqu'un qui a des gros défauts, quoi.
Quand tu m'en parles comme ça, il a pas l'air très sympathique.
Il est pas sympathique. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que quand... je pense, non, on en a parlé même avec mes potes après. Hein. Quand ils l'ont rencontré, Gabriel... disait c'est qui ce gars, parce que c'est vraiment le gars qui fait un peu aucun effort, quoi.
Ouais.
Aucun effort pour être sympa, aucun effort pour sourire. Enfin, il est très brut de décoffrage. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ma mère, elle trouvait que c'était une qualité, parce que bon, ma famille a vite compris qu'il était sur le spectre. Okay. Et donc déjà, ça lui donnait une excuse, entre guillemets. Ouais. Et aussi, moi, ma mère, elle me disait, je préfère les gens qui sont directs que les gens qui sont mielleux, qui en font des caisses. Voilà.
Okay.
Au moins, avec lui, tu sais à quoi t'en tenir.
Ouais.
Et bon, il y a eu quand même des petits incidents diplomatiques. Hein. Des fois, il disait des trucs. Mais c'est quelqu'un, je devais le coacher pour envoyer des textos. Par exemple, à ma mère. Ma mère lui avait offert un truc.
Qu'il n'aimait pas.
Non, mais rien du tout. Non, heureusement, c'était pas ça. Ça, je pense quand même qu'il avait la jugeote. Mais donc, c'était une coque de liseuse, tout simplement. Enfin, il lui avait offert, c'était pas un grand cadeau. C'est juste qu'elle m'en avait acheté une. Lui aussi, il avait une liseuse. Elle dit, bah tiens, j'en prends une aussi pour Gabriel, quoi. Je lui donne le truc. Il dit, ah, trop bien, super, merci. Et je dis, est-ce que tu peux envoyer un message à ma mère pour lui dire merci, quoi? Et donc, il lui écrit littéralement « Merci pour la coque, point. » C'est tout.
Okay.
Ni bonjour, ni merde, ni rien.
Okay.
Et là, je lui dis « Non, mais tu ne peux pas envoyer des messages comme ça. Je veux le coacher pour tout, en fait.
Okay. »
Bon, il y a aussi le côté autiste. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... voilà, c'est normal aussi qu'il y ait des choses qu'il ne capte pas. Il n'avait pas le sens de ce qu'il faut dire ou pas dire. Il y a un côté rafraîchissant, il y a un côté énervant. Donc, mais en tout cas, oui, on peut dire que c'était une personne... En tout cas, mes potes ont un peu tiqué en se disant « Waouh, c'est qui ce mec, quoi ?» Enfin, il est un peu chelou, quoi.
Bah, c'est-à-dire que ce genre de personne avec qui on ne connecte pas facilement
quand
on est dans l'entourage de... Bah, si j'avais été dans ton entourage, le seul crédit qu'il a, c'est que je sais que toi, mon ami, tu es amoureuse de lui. Ouais, c'est exactement. Ça le crédit principal qu'il a. Voilà. Et puis, tu te dis, s'il ne lui fait pas de mal, c'est que ça doit être un mec bien.
Exactement. Donc, en
toi,
fait,
t'étais pas en
ça.
Souffrance.
Non. Voilà. Non, j'étais pas en souffrance. Donc, je pense que du coup, ils se disaient, bon, bah voilà, on va pas faire une intervention. En fait, c'est ouais. OK. On va l'accepter et il n'y a pas de problème. Et ils sont trop cool, mes potes en plus. Enfin, ils sont vraiment gentils, bienveillants, accueillants. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est après, quoi. Moi, je me disais aussi, quand on était ensemble, je me disais peut-être que. Je pense qu'ils doivent le trouver un peu chelou. Et ça m'a été confirmé après.
T'assumais complètement ou pas? Parce que moi, par exemple, j'ai des amis qui sont comme ce que tu décris de Gabriel.
Ouais.
Et moi, j'ai eu des périodes où j'avais du mal à assumer.
Ton mec?
Non, ma copine. Ah. En l'occurrence, c'est deux copines à moi qui sont comme ça. Et j'ai eu des périodes où j'ai du mal à assumer.
Que parce qu'elles soient comme ça.
Bah ouais, parce qu'en fait, en soirée, c'est quand même de temps en temps.
C'est dur.
C'est dur quand même.
Non, mais c'est vrai. Moi, c'était dur.
C'est dur. Moi, j'avais des potes qui revenaient et me disaient chelou. Pourquoi elle m'a dit ça, tu vois ?
Non, mais je suis totalement d'accord. En fait, oui, et moi, ça me stresse. Bah, tu vois, ça rejoint le truc anxieux. J'ai un peu peur parfois. Bah, tu vois, j'ai des amis qui se rencontrent. J'ai peur qu'il y en ait un qui dise un truc qui choque l'autre ou quelque chose comme ça. Et donc, lui, c'était un peu tout le temps le cas parce que j'avais tout le temps peur de ce qu'il allait dire. Donc, oui, ça, c'est vrai que c'était pas confortable, on va dire, là-dessus.
Okay.
Dès qu'il y avait des interactions, c'était pas confortable. Mais c'était pas non plus grave. Et c'était en tout cas clairement pas une relation toxique. C'est un mec. Malheureusement, avec ses défauts de mec. C'est-à-dire que s'il veut pas faire d'efforts, il en fait pas, parce qu'il peut se permettre. Alors que nous, les meufs, on doit faire beaucoup plus d'efforts dans la vie pour être sympa, souriante, etc. Et on va beaucoup plus tolérer qu'un mec ne soit pas hyper cool. Une meuf, par contre, il faut qu'elle soit gentille. Donc, je pense aussi qu'il y avait des gros défauts, même si c'était un mec qui était pro-féministe, etc. Enfin,
ouais.
Sur le papier, il avait des biais de mec, quoi.
Ouais, ok, très bien.
Donc, il n'y a pas que l'autisme, hein. C'est ça que je voulais dire aussi. Ça reste un gars.
Qu'est-ce qu'elle t'a appris, toi, cette relation? Est-ce que ça a changé des choses sur ta façon d'appréhender l'amour et tes relations suivantes?
Alors déjà, oui, ben, je pense que déjà depuis, j'ai plus vraiment mis sur un piédestal un mec. Mmh. Parce que là, vraiment, pour moi, il était sur un piédestal, même quand on était ensemble. Enfin, il était toujours sur ce piédestal.
Ouais.
Voilà. Mais je pense que c'est aussi le fait de vieillir, en fait, tout simplement, et d'être un peu plus consciente des dynamiques, du fait que les mecs... c'est peut-être parce qu'ils ont moins de mal à exprimer leurs opinions qu'on les prend autant au sérieux, en fait. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les femmes. Loin de là, je considère que les femmes sont plus intelligentes que les hommes.
Ouais, mais des fois, ils ont cette capacité aussi à se mettre en valeur plus facilement.
Exactement aussi.
Et ça, tu en souffrais, d'ailleurs.
Le fait que...
Le fait d'être à côté de ce mec un peu... Parce que, bon, il devait être un peu très charismatique, quand même.
Alors, charismatique, pas vraiment. C'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, moi, je le trouvais charismatique, mais je pense qu'il n'était pas forcément charismatique vis-à-vis d'autres gens.
Okay.
C'est pour ça qu'il n'y avait pas de côté manipulateur, etc. D'ailleurs, franchement...
Non, mais pas forcément avec...
Mais oui, oui.
Pas forcément avec un côté manipulateur. Moi, j'étais ma relation qui a duré très longtemps avant que je sois avec mon mec là. Je suis partie parce que je me sentais... il était beaucoup trop grand à côté de moi, en fait. Et que j'avais besoin de retrouver ma liberté pour retrouver, me retrouver moi, en fait. Parce que lui prenait trop de place.
Trop de place. En fait, c'est intéressant. Moi, je pense que... alors, il me laissait énormément de place. Il admirait énormément ce que je faisais dans la vie. Enfin... Tout ce que je faisais, il était extrêmement encourageant. Donc là-dessus, je pense qu'il y avait quand même un équilibre.
Mmh.
Et il n'était pas forcément charismatique au sens où les gens se disaient « Waouh !» Au contraire, il pouvait plutôt même blesser les gens ou dire des trucs qui étaient chelous. Donc, ce n'était pas forcément dans ce sens-là. Mais par contre, clairement, moi, je l'admirais parce qu'il était enseignant-chercheur en maths, en plus. Mmh. Matière dans laquelle je ne suis pas excellente. En plus de ça, bon, il lisait énormément, il partageait intellectuellement énormément de choses. Le cinéma, il était... connaissait énormément de choses aussi, c'est lui qui m'a initié à plein de trucs. Et donc, il y avait ce côté un peu 10 ans plus que moi, intellectuel. Et donc, moi, clairement, ça jouait sur le fait que je le mettais sur un piédestal, mais complètement. Mais ouais, exactement, okay. Pygmalion.
On va l'appeler comme ça, l'épisode.
C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, il m'a quand même apporté plein de choses de mes goûts d'aujourd'hui. Enfin, beaucoup. Il y en avait que j'avais avant, mais forcément, il m'a connue à un âge déjà, à la base. J'étais jeune étudiante... Enfin, puis lui, c'était un prof, quoi.
Ouais. Et donc, aujourd'hui, la personne que t'es... Enfin, tu es comme tu es aujourd'hui parce que tu l'as rencontré, que tu as vécu cette histoire avec lui.
Ça, c'est sûr. Et parce que j'ai eu cette histoire avec lui parce que j'étais amoureuse de lui pendant des années avant aussi. Mmh. Donc, j'admire un peu. Et donc, je suivais pas mal de ses recommandations de base. Enfin, en fait, ça a été sur beaucoup plus que notre relation. Ça a été sur des années où je l'ai admiré et où, effectivement, y a des choses que je garde aujourd'hui que j'ai apprises avec lui. Mais ouais, c'est marrant comme relation parce que ce qui est fou, c'est à quel point aujourd'hui, ça y est, c'est terminé pour moi. Enfin, c'est fini. Je n'ai plus du tout envie de revenir vers lui. Enfin, à moins que vraiment, il s'excuse, mais platement.
Même là, célibataire.
Et il ne le fera jamais. Même là, célibataire. Ah non, mais de toute façon, moi, c'est terminé.
Toi, tu veux rester célibataire, là?
là, je veux rester célibataire. Mais célibataire, moi, ma vision de du célibat, c'est vraiment d'avoir plein d'histoires quand même. Et ça m'empêche pas de tomber amoureuse. C'est juste que je veux pas être en couple.
Okay.
Et vraiment. Et c'est fou parce qu'à 35 ans, en général, c'est le moment où les meufs, elles baillent un petit peu. Elles se disent, oh là là, mince.
Toi, t'es pas du tout là-dedans.
Mais non, en fait, je pensais que je le serais peut-être un peu plus. Moi, encore une fois, je veux pas d'enfant, donc j'ai pas cette pression-là.
Ça, c'est sûr pour toi ?
C'est sûr. C'est sûr. Et en ce moment, je fréquente quelqu'un qui a un enfant. Et je trouve génial de passer du temps avec cette petite fille. Vraiment, je l'adore. Mais je vois que je ne veux pas ça pour ma vie. Vraiment.
C'est dingue.
Et peut-être que dans 3 ans, je changerai d'avis.
Non, mais je trouve ça hyper... Ben,
on
oui,
sait pas.
Pourquoi pas.
On peut pas savoir.
Mais je trouve ça hyper mature de...
Oui.
De pouvoir le formuler de façon aussi claire.
Oui, oui, complètement.
Je sais pas si j'ai déjà...
eu cette réflexion aussi claire.
Je sais pas. Souvent, il y a un peu de doute quand même.
Bah alors, moi, c'est le moment.
Enfin, si, d'ailleurs,
où...
j'ai une copine qui veut pas d'enfant, qu'on a jamais voulu et qu'on voulait pas et qui avait ses raisons pour. Et
aujourd'hui, elle a pas changé d'avis. Non, non. Alors, mais bien sûr, là, j'ai fêté il y a pas longtemps mes 35 ans. Je sais que c'est jusqu'à 37 ans que je peux congeler mes ovocytes en France.
Mmh.
Et forcément, j'ai plein de copines là qui le font. Et ça me fait réfléchir dans le sens où j'ai peur de tout ce qui est définitif. C'est pour ça que je veux pas d'enfant. Mais du coup, le jour où ce sera définitif de ne plus pouvoir en faire, ça peut me faire stresser aussi. Même si j'en veux pas.
C'est quoi cette peur du définitif ?
Ah, bah, je sais pas, mais par exemple, je ne veux pas de tatouage. Je ne veux. Non, mais c'est. Il y a pas longtemps, bah, justement, avec cette petite fille, j'ai fait un tatouage temporaire, les trucs pour enfants. Et je faisais attention en lavant et tout pour pas l'enlever, pour quand même le garder plusieurs jours. Et en fait, au bout de, je crois, 4-5 jours, dans la douche, j'ai fait ah, je veux l'enlever, je veux voir que ça disparaît, ça peut disparaître dans mon corps, quoi. J'étais vraiment complètement folle. Et. dans la douche. Et en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi. J'ai besoin de pouvoir à tout moment changer ma life, quoi. Et donc, je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse un gros travail psy, je pense.
Parce que moi, j'ai un peu ça, mais c'est pas le côté définitif.
Okay.
C'est le côté propriété, moi, qui me fait extrêmement
c'est-à-dire
peur.
C'est-à-dire
d'être propriétaire de trucs.
Okay.
Ça m'angoisse à mort.
Okay.
Ça me fait peur. D'ailleurs, bref, même un vélo, ça m'angoisse, tu vois.
Non.
Ouais, parce que j'ai peur de le perdre.
Ah, c'est intéressant. Et moi, c'est pas du tout comme ça se traduit.
On a acheté une maison en Bretagne avec mon chéri. Moi, j'ai peur qu'elle disparaisse, qu'elle roule. Enfin, tu vois, tout le temps, j'ai toujours peur. Et ça, du coup, j'ai pas envie de le subir, tu vois.
Ah, c'est intéressant. Ouais, ça se traduit un peu différemment. Parce que moi, ça le côté matériel et tout, là-dessus, posséder quelque chose qui est extérieur à moi, c'est pas grave.
Ouais.
Et je vais pas avoir peur, forcément. Mais c'est quelque chose sur moi, de moi. Enfin, ça m'angoisse énormément. Je peux pas faire un truc définitif, quoi. Et donc, je me dis, bah, oui, mais du coup, imagine, c'est définitif de plus pouvoir faire d'enfant. Bah, et là, l'âge approche.
Bah oui.
Et donc, je me dis, est-ce que je vais pas le faire ? Même si maintenant, c'est maintenant, en fait, qu'il faut que je m'inscrive. Parce qu'apparemment, il y a un an de liste d'attente et tout ça. Donc, finalement,
France,
les 37 ans, c'est... Ouais, en France. Et moi, je veux pas non plus aller me faire chier.
Ah, parce que là, c'est quand même un autre projet, quoi.
C'est un autre projet, il faut avoir vraiment envie, quoi. Mais oui, là, aujourd'hui, je suis trop bien célibataire, en fait. C'est fou, mais je suis trop bien. Je suis dans mon petit appart, c'est trop bien. Je vois des gens, donc je m'amuse. Je peux être amoureuse, je peux le dire que je suis amoureuse quand je le suis, mais ça ne conditionne pas le reste de ma vie. Et ce qui fait la différence aussi, c'est est-ce que je les présente à mes parents ? Et tant que je n'ai pas présenté à mes parents, parce que pour mes parents,
c'est
ça scelle quelque chose en fait à chaque fois. Et tant que je ne présente pas à mes parents, peut disparaître, il n'y a pas de problème.
Il y a une petite question philo à la fin des épisodes de Crush, Samia, c'est toi, est-ce que tu crois au destin, à la chance ou au hasard ?
Moi, je crois au hasard. Mais après, ça ne m'empêche pas d'avoir des côtés... Enfin, je pense que tout arrive par hasard, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des côtés un peu superstitieux et de penser que... Des fois, de dire « Oh, mon Dieu, faites que !» Parce que je me dis « Il doit y avoir un destin quelque part, il doit y avoir quelqu'un qui commande. » Mais
tu ne le dis
pas consciemment. Non, justement, je ne me le dis pas consciemment. Mais je me dis « Si jamais, autant souhaiter quelque chose et autant faire en sorte que ça aille dans mon sens. » Mais objectivement, scientifiquement, non. Franchement, je me dis, c'est pas possible.
Donc,
mais
tu crois à une accumulation d'accidents qui créent des hasards.
C'est ça.
Okay.
Mais ça m'empêche pas d'avoir des côtés complètement superstitieux et complètement de me dire, ah non, mais le truc en anglais, everything happens for a reason. Donc, tout arrive pour quelque chose, pour une raison. Je me le dis pas ça de tout le monde parce que c'est horrible pour des gens à qui il arrive une série de merde en permanence. Enfin, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'essaie de moi voir les trucs comme ça en me disant non, mais en fait, c'est que c'était pas destiné pour toi. Donc tu vois, j'ai mes contradictions de ouf. Hein.
Ouais, bah, c'est ça qui est beau. De toute façon, dans la vie, les contradictions. Hein.
C'est les contradictions.
C'est ça qui est... c'est la nuance et la contradiction.
Exact. Et la contradiction, c'est par exemple de ne pas vouloir d'enfant, mais de réfléchir à congé de
ovocytes.
On est en plein dans la contradiction.
C'est d'être dans un couple, mais libre.
Mais libre, exactement. Exactement. C'est conjuguer des choses qui n'ont rien à voir.
Mais moi, ta vie de célibataire libre, elle me fait un peu rêver, si tu
c'est
veux
vrai.
Savoir.
Ça, bah, c'est intéressant.
Bah oui, parce que... Mais on en parle avec mon cum, hein. Parce
ouais.
Que, ben, parce que quand tu deviens maman, tu te rajoutes des contraintes de tout genre.
Bien sûr.
Et je suis en quête de liberté permanente. Et une semaine passée à Paris sans enfant, donc sans contrainte logistique horaire, et pour moi, le summum de la liberté ces dernières années. Et du coup, je fantasme un peu cette vie-là que
bien
tu
sûr.
As, tu vois.
Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui fantasment au contraire ta vie.
Ouais,
parce que des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ouais. qui n'arrivent pas à avoir un partenaire. Voilà, de toute façon,
ouais,
exactement.
Sûr.
Mais je pense qu'il faut toujours se dire... Enfin, c'est important de se dire ma vie est cool, elle me plaît, mais potentiellement, ça peut être aussi très bien autrement. Et garder cette porte ouverte. Et ne pas forcément tout le temps se complaire dans ce que... Et ne se poser aucune question sur ta vie. Toi, des fois, tu peux te dire, bah oui, en fait, quelle aurait été ma vie si j'avais pas eu d'enfant ? Bon, bah, c'est pas grave, ça veut pas dire que t'aimes pas tes enfants, ça veut juste dire que
c'est oui,
open.
Ah non, mais en plus, j'adore. Voilà. Vraiment, je suis très, très heureuse
non, mais,
en couple et en famille.
Mais
donc,
bien sûr.
Mais c'est vrai que j'ai... Tu sais, voilà. j'ai toujours le « et si ?» Et si j'imaginais ma vie, là, maintenant...
Mais pour moi, c'est humain, en fait.
Ouais. Et c'est même sain, je pense.
C'est
en
même
fait.
Sain.
Parce que ça permet aussi de mesurer...
Que t'as.
Ce que j'ai, la beauté de ce que j'ai, donc ça me fait pas peur, mais,
bien sûr.
Mais par contre, je changerais bien ma vie avec toi pendant une semaine.
Moi, j'avoue que je suis pas sûre que je ferais l'inverse.
Allez, clap. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-OK. You know why?